France Inter.
C'est calme ici ce soir.
CO2, mon amour.
Tu entends le chant lointain des baleines chanteuses.
Merveilleux. Je me demande ce qu'elles se disent.
Denis Chessou.
Non, ça c'est la sirène d'une barge de déchets toxiques. Là, tu entends? Ça, ce sont elles.
Sur France Inter.
Et bon, on va quand même vous envoyer du beau. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Fabrice Desmaz aujourd'hui à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès et Juliette Gou réalise l'émission. Alors là, vous savez, on a un peu le plaisir de glaner des mots qui sont tombés dans un micro à une époque et puis retrouvés et jamais diffusés. C'était en 2015 chez Jean-Marie Pelt, un des pionniers de l'écologie, chez lui en Lorraine. Il venait de lire l'encyclique du pape, Laudato Si, que François d'ailleurs a fait relire et commenter par un climatologue athée, ce qui montrait quand même sa grande ouverture d'esprit. Alors l'homme était populaire hein, chez les non-croyants et croyants, sauf ceux qui sont évidemment climato-sceptiques, anti-vax et ceux qui ne veulent pas de soutien aux migrants. Et voilà ce que disait Jean-Marie Pelt donc en 2015 après avoir lu Laudato Si.
C'est un événement considérable, tout à fait considérable parce que on n'avait jamais entendu ça venant du Vatican dans une langue que tout le monde comprend. Et le texte s'adresse, il le dit, à tous les humains, pas seulement aux cathos, à tous les humains. Et ça c'est extrêmement important aussi. Et alors il explique, par exemple, que les hommes politiques, les responsables, sont soumis à la technologie et à la finance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ici, on a tant de mal à gérer la société d'une manière à tant soit peu égalitaire, enfin disons, où il y a de la justice sociale, et c'est parce que la pression des grands milieux financiers est en fait énorme. Les grands lobbies sont tout puissants et il dénonce ça, alors lui carrément. Hein. Et puis il a récidivé dans son voyage en Amérique du Sud, puisqu'il a fait son premier voyage en Amérique du Sud, il a re-bien savonné la planche. Et je trouve que c'est merveilleux qu'il y ait une voix qui s'élève, qu'il y ait sur cette immense planète, qu'il y ait une grande voix qui porte en fait l'espérance que chacun porte en soi et que malheureusement, on ne voit pas produire encore des fruits. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce texte et puis j'ai beaucoup aimé aussi que ce texte, c'est lui qui l'a écrit en partie. On voit par moments des paroles qui sont tout à fait les siennes. C'est pas les bureaux qui ont fait le texte. Ils ont consulté des scientifiques du monde entier, mais le texte vient de son cœur. Et quand il associe le souci qu'il a de la pauvreté avec le souci qu'il a de la nature, c'est très beau. Il raconte une histoire de sa Bonaventure. Alors tout le monde connaît saint François d'Assise, naturellement, dont il est vraiment un remarquable successeur.
C'est un franciscain et un jésuite.
Tout à fait, il est les deux en même temps, tout à fait. Et Bonaventure est le successeur de François à la tête de l'ordre des franciscains que François a créé. Et Bonaventure a écrit ceci. Il a écrit que Dieu est en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et que ces trois personnes tiennent ensemble par des relations d'amour. Et il insiste sur l'idée de relation, et il dit que dans la personne même de Dieu, c'est relationnel. Et il passe de là à l'écologie, et il dit la nature c'est pareil, parce qu'elle est à l'image de son créateur, et tous les êtres vivants sont effectivement en relation les uns avec les autres, et aucun n'est inutile. Et il dit chaque espèce a son utilité, donc c'est l'ensemble que l'on doit protéger. Et c'est ce qu'il appelle l'écologie intégrale, parce que ça intègre effectivement et la nature et l'homme.
Voilà, c'est quelques mots donc de Jean-Marie Pelt, qui aimait beaucoup donc ce pape avec ce manifeste tout à fait écologique. Le prochain pape sera-t-il climato-sceptique ? S'intéressera-t-il à l'écologie ? Allez savoir, je vous emmène maintenant au Glénan.
Whispering to myself, finding somewhere that I can be. something that I see in you, for someone that you would see in me. If nothing is real, then nothing is true. If nothing is real, played with fire till it grew cold. With my own eyes saw the embers fade. Castles we built made of sand, with the rain how they washed away.
Deux hommes extraordinaires, Pierce Facchini. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, hein, si vous voulez réécouter en podcast sur l'application Radio France, Pierce Facchini, que j'avais tourné donc chez lui dans les Cévennes. Vraiment, ne vous gênez pas. Et Balaké Sissoko, donc du Mali, si rien n'est réel. Allez, vous enfilez les bottes, c'est parti. On est sur un bateau. Direction quoi ? Les Glénans.
Hop, le pied sur le boudin. Et on y est. Et voilà.
Salut
Marion.
Salut Denis. Allez, bienvenue à bord du bateau de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-des-Glénans, direction l'archipel. D'ailleurs, vous êtes bien calé là ?
On est très bien. Alors, quand on prononce Glénans, on pense Bretagne et voile, et très souvent d'ailleurs les gens l'écrivent au pluriel. Mais les Glénans restent un archipel singulier. Plusieurs facettes et activités rythment donc ces 9 îles principales et ces nombreux îlots. Alors vous avez l'école de voile, évidemment éponyme, hein, qui sera créée en 1947. Ça a permis à d'anciens résistants de réapprendre la vie civile et des rencontres d'étudiants du monde entier. Et c'est là qu'on a inventé le nautisme moderne grâce à un coup de génie, le Vaurien, ce petit voilier insubmersible en contreplaqué. Un bateau école. J'arrête pour cela parce que moi je ne suis pas bon du tout sur un bateau. Les Glénans, ce sont des chapelets d'îlots rocheux, autrefois rattachés au continent, et ils sont délimités par la chambre. Alors la chambre, c'est une mer intérieure qui sous le soleil prend un air de lagon aux yeux bleu-vert. Alors de là à parler de Tahiti en Bretagne du Sud, enfin bon bref, on se fait plaisir. C'est aussi donc un cimetière d'épaves. Et puis nous débarquons là sur l'île Saint-Nicolas, dans la réserve nationale naturelle créé en 1974, et sur son dos pousse un narcisse jaune, presque blanc, Narcissus triandus, rêve de botaniste qui se développe en pelouse rase. Rare et rase d'ailleurs. Le narcisse des Glénans fleurit en mai jusqu'à juin, et sur cet affleurement de granit aussi, eh ben pousse de la beauté, du vent, du rêve de dauphin, de marin, de goéland, de grands et de petits larges. Alors Marion Diard, vous avez entendu, c'est la conservatrice de la réserve nationale donc de ces Glénans, et Margot Le Guen, ce sont donc, je vais dire, les deux fées naturalistes, gardiennes des lieux, grâce à la belle association Bretagne Vivante. Nous sommes donc au sud de Fouesnant, et allez, venez respirer l'air de ce sud Finistère, au Glénans.
Hop, Arrivé donc sur Saint-Nicolas, c'est ça?
Oui, arrivé sur Saint-Nicolas des Glénans.
On grimpe. Ouais, je suis là. Attends.
Là, on est un peu engoncé dans ces. Dans les salopettes.
Ça y est. Ça y est, on y est. Marion Dière, alors là, nous avons quand même une chance assez incroyable. Parce que, en fait, il n'y a personne.
Non, il n'y a personne. Personne. Pas un plaisancé, un seul cata.
Ouais.
Et en fait, faut que tu imagines que l'été, là, c'est rempli. Là, tu peux même pas imaginer parce qu'il n'y a même pas les mouillages collectifs.
Ah oui.
T'as même pas les petites bouées pour essayer de repérer.
Quasiment, on peut marcher de bateau en bateau.
Oui, que... non, ah ouais. Quand même pas. Mais ouais, c'est vraiment l'opposé entre cette période-là et la période estivale à partir de mai, là.
Ouais.
Ça commence à arriver. Et l'été, c'est vraiment un flux important. Des fois, t'as les pêcheurs, là, ils sont pas là aujourd'hui. Mais t'as Jean-Michel et son fils, Paul.
Qu'est-ce qu'ils ramassent là? Sinon, qu'est-ce qu'ils prennent comme poisson?
Ah, la spécialité chez Castric, le homard.
Ils ont des casiers un peu partout?
Ouais, ils ont des casiers dans l'archipel.
Eh ben, regardez par qui on est attendu, Marion.
Ah, les petits goélands marins.
Oh, tiens.
Pas si petits que ça.
Non, c'est des gros pépères. Hein.
Ouais.
Bon, distance de fuite, quoi, combien? 30 mètres?
À peu près,
c'est ça, hein, Margot.
30-40 mètres. Il y a les jeunes de l'année derrière aussi.
Ah, c'est ça.
Là, on a régulièrement des gens qui se font un peu piquer leur sandwich carrément dans les mains. Ou,
Mais
les gens ont la mauvaise habitude de jeter des morceaux de sandwich ou des morceaux de frites. Et bon, forcément, un goéland n'est pas fait pour manger de la frite. Et puis après, en fait, ça les encourage à venir un peu harceler les vacanciers pour avoir à manger, quoi. Mais en face, c'est l'îlot de la Croix qui, en saison, est interdit d'avril à fin août. Interdit d'accès pour...
De nidification.
Ouais, pour permettre la nidification et puis une zone de tranquillité sur l'île parce qu'on a du monde partout en été, à partir du mois de juin.
Ouais.
Il y a du monde sur toute l'île et donc c'est la seule zone où ils peuvent être un peu tranquilles et puis nicher sans être dérangés.
Sur l'archipel, tu as plusieurs arrêtés là, préfectoraux,
ouais,
qui sont mis en place justement pour préserver la nidification des oiseaux. Par exemple, sur l'île aux moutons, c'est une grosse colonie où on retrouve trois espèces de sternes qui nichent chaque année. Et du coup, là aussi, le préfet a mis en place un arrêté préfectoral pour interdire le débarquement et préserver la nidification des oiseaux.
Parce que vous entendez, hein, c'est l'éolienne, hein, qui est en train de tourner là, juste en dessous de nous. Voilà.
Alors le maire, en fait, la volonté, c'est d'avoir une île zéro carbone.
Ouais.
Donc il y a cette éolienne qui tourne et puis au pied de l'éolienne, il y a plein de panneaux solaires.
Ouais.
Et sur les bâtiments communaux aussi, ils ont mis des panneaux solaires. Et on a des toilettes qui marchent avec du lombricompostage pour préserver la ressource en eau. Il y a une lentille d'eau sur l'île, mais c'est de l'eau saumâtre. Oh, des tadornes. Des canards. Voilà. Tadornes de belon.
De belon.
Ouais. Ça, c'est une espèce de canard qui niche aussi dans l'archipel. Donc là, il y a probablement un couple, un mâle et une femelle. Et eux, ils vont nicher dans les terriers, un peu faits par les lapins, notamment dans les dunes.
Alors là, on est vraiment réserve nationale, réserve naturelle nationale.
Oui, réserve naturelle nationale, qui a été créée il y a plus de 50 ans. Maintenant, on a fêté les 50 ans l'année dernière.
Alors, grâce à une fleur.
Grâce à une fleur, le narcisse des Glénans, qui est une espèce endémique, qui ne pousse que sur l'archipel des Glénans. Donc sur Saint-Nicolas, d'où la création de la réserve, et sur trois autres îlots.
Ouais.
Donc bizarrement, elle n'est pas présente sur tous les îlots de l'archipel, mais seulement sur trois îlots, Le Vau, La Tombe et Brunec.
Et qui est donc jaune, mais presque, enfin jaune pâle, quoi.
Presque blanche, ouais. Hein, c'est vraiment comme une jonquille toute blanche, très élégante, voilà, qui fleurit au mois d'avril.
Bon, alors en tout cas, grosse disparition quand même. De ce narcisse.
En 10 ans, là, la population de narcisse a vraiment chuté très rapidement. Hein. À partir de 2022, on a vu la population commencer à décliner. En parallèle, en fait, on a eu une grosse sécheresse également à cette même période. Et du coup, en fait, la végétation sur la réserve a changé. Et puis, on a un effet qu'on n'avait pas du tout anticipé. Historiquement, il y a des lapins sur Saint-Nicolas. Il y a toujours eu des lapins. Ça se régulait. Et là, les lapins...
Très herboristes, quoi.
Ouais. Ils se sont reportés sur... La végétation ayant changé, ils se sont reportés sur les narcisses. Donc, on a mis en place, là, depuis quelques années, des actions de piégeage du lapin pour limiter l'impact du lapin sur cette population de narcisses.
Et pour goûter le civet aux narcisses.
Ouais.
Un jour, ils diront, c'est sur ce rocher qu'elle venait se montrer à la mer. Et toi, que diras-tu ?
Que j'allais chercher une fourrure pour l'asseoir dessus.
Mais non, directement sur le granit, même si j'ai froid aux fesses. Force du granit, mémoire de l'huître et beauté océane. Voilà mes drogues.
Tiens, il n'y a pas des phoques là-bas ?
Et on a des reposoirs à phoques derrière. Du coup, on voit l'îlot, plein d'îlots rocheux derrière. Et puis, avec les jumelles longues vues, on arrive à voir les reposoirs à phoques qui sont plus au large.
Si, là, ça y est.
Faudrait qu'on voit avec la longue vue, là. La jumelle, c'est un petit peu...
Un peu court. Ouais, ils sont là-bas, normalement.
Cette zone nord, ouais, il y a pas mal de phoques gris. Il y en a de plus en plus aussi. Au début, il y a plus de 10 ans, on en voyait un ou deux de temps en temps, comme ça. Mais maintenant, on est vraiment sur des comptages où il y a presque une cinquantaine de phoques à chaque marée basse en reposoir.
Ça veut dire que le milieu leur plaît, ça veut dire que l'écosystème leur va bien.
Oui, la population est aussi en bonne santé. Et puis elle descend, elle a tendance à descendre géographiquement.
Là, les pêcheurs, ils n'aiment pas trop, non ? Les phoques ou concurrence ou...
Ouais, il y a de la déprédation forcément dans les filets. Ah oui. Après, il y a les études qui ont été faites sur l'alimentation du phoque, notamment au Sept-Îles et en Iroise, et on voit qu'ils mangent aussi beaucoup de congres et de vieilles et de choses comme ça. Ouais. Pas forcément les loubars ou la dorade ou des choses, c'est plus ponctuel. Mais de fait, ils viennent grappiller dans les filets. Mais c'est pas la majorité de leur alimentation.
Regarde ce qu'on a trouvé.
Des gadgets humains. Voyons voir. Oh, ça. Sublime. Une bigette. Bulbeuse à rayures.
Oh.
Les bigettes datent de l'époque préhistorique où les humains s'asseyaient tous en rond et se regardaient dans le blanc de l'œil en déprimant à mort. Alors, ils ont inventé cette bigette stéréophonique pour faire de la musique, vous permettez ? C'est pas mal pour repiquer les crevettes.
Oh, il faut que je parte. À bientôt.
Et là, on a des petits points blancs. Évidemment, ça veut des goélands, ça aussi ?
Ouais.
Oui, ce sont des goélands.
Les zones on appelle ça des reposoirs. Ils font la sieste, ils prennent le soleil, ils se reposent. Et en fait, c'est des périodes qui sont importantes pour la biologie de l'espèce. Il n'y a pas que quand ils se reproduisent qu'ils sont fragiles. Il y a aussi toutes ces périodes de repos. Parce qu'un oiseau qui s'envole, c'est un coût énergétique aussi pour lui. Et souvent, on pense à son échelle. On dit oui, bon, je l'ai dérangé une fois, c'est pas grave. Mais en fait, on pense pas aux 50 personnes qui vont passer derrière et qui vont déranger le même goéland 50 fois. Ce qui fait qu'en fait, à la fin de la journée.
Il a plus de réserve.
Hein. Il a plus de réserve, ouais.
Donc là, ils se refont une santé, quoi.
Ouais, là, il est tranquille, il profite tant que le calme est là.
Des goélands argentés en partie, là.
Et ils nichent, c'est des oiseaux qui nichent comme les triépis et les gravelots, ils nichent à même le sol. Donc même nous, quand on sait qu'il y a un nid, des fois, on a du mal à le trouver. Donc les gens qui ne sont pas au courant, bah forcément, ça arrive qu'ils écrasent des œufs. Donc toute cette zone-là qui est fermée, c'est aussi parce que les goélands nichent, et les huîtriers-pies et les gravelots nichent dans les parties rocheuses pour éviter l'écrasement des nids.
En période de nidif, c'est vraiment sur certaines îles, c'est vraiment les goélands qui sont les maîtres, quoi. Parce que y a un humain qui arrive, mais ils se font attaquer à Pinfrette, là, sur certains secteurs ou sur les petits îlots. Ah, c'est vraiment ils attaquent.
Au ras de votre tête, ouais, d'abord, il y a de l'intimidation, oui. et après ils peuvent effectivement carrément.
Quand on fait les comptages, les recensements annuels d'oiseaux marins, enfin, on est avec nos chapeaux et enfin, il y a des bénévoles, ils sont en casque. Hein. Enfin, j'ai déjà vu un bénévole devant moi se faire...
Attaque de goéland. Ils défendent leur territoire.
Notamment sur cet îlot, là, la Brunec, là. Il y en a un goéland marin, mais il est agressif. Dès que tu arrives sur l'île... Ouais, ils commencent à faire leur petit nid, là. Et... Sur l'îlot, là-bas, au fond, on voit les cornes.
Les cormorans ?
Ouais, cormorans.
Oui, ce que...
Cormorans huppés. Oh, on a nos petits...
J'ai compris, aux petits sigles.
Ouais, nos petits sigles, HP, huîtrier pi, GCI, grave loi colis interrompu.
NIDIF, on a compris, nidification.
Ouais, NIDIF, voilà, bon, on a... Ouais, on raccourcit. Hein.
Ne inquiétez pas, la radio, c'est pareil. Hein.
Mais là, les cormorans, ils sont en train de... Ils vont... C'est un peu la première espèce d'oiseau qu'on va compter dans la saison.
Ouais.
Et en fait, là, ils font de l'apport de matériaux sur leur nid. Donc, idéalement, c'est des algues. Des petites branches et tout, mais on retrouve aussi, on fait un comptage des macro-déchets parce qu'on retrouve énormément des morceaux de filets, des boots, on retrouve des paires de lunettes, des râteaux
des
de plage.
Claquettes. Des claquettes, des.
Et bien sûr.
Des bouchons de.
En fait, ils prennent ce qu'ils trouvent autour, quoi.
Plastique.
On passe par la côte, là, c'est plus sympa.
C'est sympa par la côte, là.
Alors des goélands, en veux-tu, en voilà, mais évidemment du vent, mais ça c'est normal, ça s'appelle la mer et des embruns, et ce n'est pas terminé, restez avec nous.
Heureux le marin qui nage dans les eaux de son courage, heureux le capitaine dont la gloire est certaine et qui meurt un beau matin, frappé au pied de son mât, de son mât, de son mât. Heureux les bateaux fantômes dans les eaux du rêve des blondes, heureux les drapeaux pirates, rubans noirs sur peau d'albâtre, flottant dans les mers nouvelles, où les phares se promènent les grands soirs, les grands soirs.
Heureux le marin qui nage, Julien Clerc et Étienne Rodagile. Merci à Thierry Dupin d'avoir choisi évidemment cette chanson. Alors les traditions racontent que les 9 îlots des Glénans étaient donc jadis une île absolument considérable. Elle s'appelle Îlot Mouton, Drennec, Bananec, Cigogne, Penfrey, Le Loc, qui a été loué depuis 1924 donc à la famille d'un milliardaire idéologue, qui est donc là. Et puis, c'était quand même aussi un abri de corsaires et de pilleurs d'épaves. Mais nous, on retrouve donc nos deux jeunes femmes, Margot Le Gouen et Marion Diard, la conservatrice de cette réserve de l'île Saint-Nicolas, qui ont une véritable passion, on l'avait compris, évidemment, pour cette nature et pour ces lieux.
Moi, c'est vraiment quand je suis en mer, quand je tiens le bateau, là, t'as le vent qui... Je me sens libre, je... Quoi ?
À ta place.
À ma place.
Oui. Ça fait toujours du bien. Même si on est fatigué le matin, on n'a pas envie, il fait froid. Quand on arrive ici, après on est toujours hors période estivale, j'entends, parce qu'avec la fréquentation, c'est bien pas sûr. La même chose. Mais, ouais. Mais quand on vient ici, on peut avoir passé un mauvais week-end, être crevé. En fait, on oublie un peu tout et ça déleste un peu de tout.
Et je pense qu'il y a aussi la passion pour la mer qu'on a toutes les deux. Enfin... Je le ressens quand on est toutes les deux en mer, dès qu'on est sur le bateau, on se regarde et on sait qu'on est bien.
Ah mais
quoi.
Vous êtes en communion, moi je l'ai vu.
Ouais. Ouais.
Puis on commence à bien se connaître.
Ouais. Et puis là, tu vois, là c'est les premières sorties de terrain. Bon, on y est quand même toute l'année, mais les premiers beaux jours, le printemps,
Mais tu le vis, mais...
Intensément,
quoi.
On lâche l'ordi, les rapports, et puis on reprend un peu une bouffée d'oxygène, là. Ça fait du bien.
En se retirant, chaque vague laisse sur le sable un cadeau. Un coquillage au fond d'une algue. Un reflet bleu dans un trou d'eau. Ah, miracle du sable, en petits grains. Ah, la douceur du sable chaud dans ma main. Brillant de mille éclats. Sable fuyant comme de l'eau où s'enfoncent mes pas. Sable gravant les pas nouveaux, les conservant.
Non, c'est bien parce qu'en fait, on a nos pas, mais c'est pas le plus important.
Là. La multitude de pas des goélands, ah, notamment, oui. Là. Et il y a, je pense, pas mal aussi de tournepierres qui sont venus.
Ah, on n'a pas regardé, Margot, le Grande Nébrie. J'ai regardé un peu, je ne l'ai pas trouvé.
De quoi, vous avez dit?
La Grande Nébrie, oui, coléoptère.
Ouais, un petit carabe.
Carabe, que l'on retrouve principalement dans les laisses de mer, et notamment sous les galets ou sous les vieux bois flottés. Et en fait, c'est une population qui est... en voie de disparition, hein, presque, hein, parce que bah, y a eu beaucoup d'actions sur le littoral, notamment sur le haut de plage. Et on en retrouve principalement sur l'archipel des Glénans, Watt, Edic, et puis l'île de Groix. Nos collègues là, de Bretagne Vivante également, il y a une réserve de Bretagne Vivante à Groix.
C'est une espèce qui disparaît dans un silence assourdissant.
Avec un rôle de quoi? De décomposeur?
Ouais, 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 ouais. Comme toutes les espèces un peu de la laisse de mer, hein, c'est un prédateur, donc il va chasser la nuit les petites puces de mer et des choses comme ça. Ouais. Donc la plage, c'est un milieu qui est vivant, quoi. C'est pas juste un espace de détente. Dans la laisse de mer, donc ce que les gens trouvent sale en général, tous ces dépôts d'algues qui sont déposés en haute plage par la marée,
c'est
en
plein
fait.
De vie.
C'est plein de vie. Il y a des. Sur un mètre carré, c'est plus de 100, 200, 300. Individus de plein d'espèces différentes en fait qui ça participe au cycle, ça nourrit les oiseaux, ça décompose donc ça vient enrichir la dune derrière, la dune qui va protéger les espaces de l'érosion, enfin c'est tout un cycle qui est hyper important à préserver et que
ne
souvent
nettoyez on... pas les laisses de mer.
Ça jamais.
C'est très joli, c'est ce que la mer a laissé. Hein.
Ouais. Là tu vois il y a deux huîtres épis. Donc tout noir et blanc, c'est des oiseaux. Les Nicole, là, ils ont des grandes pattes oranges, ils sont un ventre blanc, le dos noir, et un grand bec de plusieurs centimètres qui est tout droit là et qui est orange pareil.
Alors, elle... huîtrier.
Ouais. Parce que ils mangent pas d'huîtres. ils mangent pas mal. On retrouve beaucoup dans les nids des patelles.
Des patelles et des moules aussi. Dans son nid, c'est vraiment plein petits morceaux débris. De moules, de coquilles.
Ouais. Et puis les patelles, il y en a les tapés, les décolles, et souvent ils viennent les apporter. On en retrouve des fois au centre des îles, enfin là autour des nids, ils viennent alimenter leurs poussins en fait, qui sont à proximité, ouais. Qui leur amènent des petites patelles. Et puis eux, sinon, ils vont piquer aussi le bec dans le sable pour aller chercher des choses, des vers, des trucs comme ça à manger. Ouais.
Alors que faut-il savoir, que faut-il comprendre?
Par rapport à la nidification de cet oiseau, l'avantage c'est que, vu qu'il est noir et blanc, il n'est pas hyper discret. Donc nous on peut le repérer d'assez loin avec nos jumelles et puis nos longues vues, donc on peut le montrer facilement au public. On peut l'observer, des fois il quitte son nid un peu à ras de terre, c'est qu'il a repéré, il a été dérangé, il essaye d'éloigner le prédateur potentiel de son nid. Donc tout ça c'est des comportements qu'on peut facilement montrer aux gens. Pour que...
Il alarme, ouais, il crie, il a un cri vraiment particulier quand il est dérangé et qu'il passe pas inaperçu. Il a vraiment tous les comportements parfaits pour bien expliquer...
Ce que c'est que le dérangement, quand est-ce que... Voilà, parce que les gens ont du mal des fois à saisir, ils ne comprennent pas qu'un oiseau qui part ou qui crie est un oiseau qui a peur. Donc tout ça pour ça, c'est un bon ambassadeur, le petit huîtrier pie.
Votre travail, vous ici, donc Marion et Margot, en fait c'est de préserver la beauté du monde.
Je l'avais jamais formulé comme ça, mais c'est pas mal. On essaye, un peu à notre échelle. Des fois, je me fais la réflexion, ce qui fait que je suis pas complètement déprimée à cause de la situation, de l'environnement, et puis l'état du monde généralement, c'est que je me dis qu'à mon échelle, donc l'échelle de petite île perdue un peu au large, c'est que j'ai l'impression de faire quelque chose, au moins. C'est ma façon de me dire que je suis pas passive et que je regarde pas les choses... qui se passe, c'est qu'en fait on prend tout plein fouet sans pouvoir rien faire.
Vous êtes Marion. Agissante.
Ouais, avec Marion on essaye de faire ce qu'on peut.
Et souvent quand on fait les scolaires ou la sensibilisation du public, les gens nous remercient. vraiment de protéger, ou quand on voit les enfants qui pleurent presque quand ils voient un gravelot à la longue vue, et on dit mais ça y est, ils ont adopté un gravelot. Enfin,
j'ai une fois une gamine qui s'est plantée devant moi, elle avait 7 ou 8 ans, elle m'a regardée dans les yeux comme ça, elle a dit « Comment on fait pour faire votre métier ?»
Ouais. Moi aussi, je veux devenir policière de la nature.
Et c'est génial, quoi. C'est vrai que cette transmission est aussi, fait partie du métier, et c'est une part qui amène un peu de baume au cœur de temps en temps.
Vous faites une très jolie part, les unes les autres. Ouais.
Moi, plus tard, mon métier sera de protéger les animaux.
Tu vois là, c'est typiquement c'est la mise en place du platelage. Donc la dune s'érode d'année en année. Donc le gestionnaire doit s'adapter parce qu'on est une île qui reçoit quand même du public. Donc modification, on change le platelage et on fait un platelage central. Et celui-là,
donc ce sont des lattes de bois, hein, bien sûr, ouais, sur lesquelles on marche, c'est ça le platelage.
Pour éviter de patiner cette dune, ouais, dune grise qu'on appelle une dune fixée, en fait, qui est assez fragile. Et ça a bénéficié en fait au gravelot à colis interrompu qui vient nicher du coup dans cette dune à proximité du passage pour se préserver des prédateurs. Et quand même dans un endroit qui n'est pas piétiné, donc là ils sont assez
c'est
tranquilles.
Hotspot des gravelots
devant nous, là, cette dune. Ouais.
Comment on gère le trop-plein, autrement dit, donc la surpopulation?
Ouais, c'est en fait, c'est, on peut pas. Nous là, on est privilégiés aujourd'hui parce qu'on a notre zodiac et on sait notre lieu de travail. Il y a personne, mais les gens ont aussi le droit de profiter de cet espace. Le tout, c'est de réussir à concilier tous ces usages. Et il y a objectivement trop de monde. Donc, comment est-ce qu'on arrive à étaler peut-être la fréquentation sur une un peu plus longue période? Mettre moins de monde, mais c'est des questions qui sont très compliquées parce qu'il y a des enjeux économiques derrière.
Oui, mais il y a un moment, on ne va pas arriver à une espèce de numerus clausus.
Ça, c'est les services de l'État de trancher, de prendre les décisions. Il y a des choses qui se font ailleurs, hein, mais.
Parc national des Calanques, par exemple.
Même à l'île de
Bain. Porco, oui, oui.
Et même à Bréa, ils ont mis ça en place aussi. Ouais. Donc, ça se met de plus en plus en place, hein, dans les espaces. Naturel, dans les réserves naturelles, dans les parcs.
Mais bon, le constat est globalement partagé. Après, il faut savoir quelle solution on trouve collectivement.
Alors là, nous sommes face à la réserve, ce qu'on appelle intégrale.
Oui.
C'est-à-dire que là, on n'y touche pas. Hein.
Celle-là, on n'y touche pas. D'ailleurs, tu vois, il y a un enclos qui fait tout le tour de ce périmètre, 1,53 hectares, dans lequel tu retrouves la population de Narcisse des Glénans.
Là-bas sur l'océan, bien loin du continent, se trouve un groupe d'îles appelées les Glénans. Dans ce pays charmant, battu des flots des vents, la première des villes a un maigre épatant. Entendant bien sonner l'heure chaque journée, il vient inaugurer l'horloge de Pont-l'Abbé.
Donc là, ça, c'est le tombolo, c'est ce qu'on appelle le tombolo. Donc là, sur notre gauche, il y a une grande langue de sable qui vient relier en fait l'île de Saint-Nicolas à l'île de Bananec, qui accueille le centre de voile des Glénans. Donc on a ce sable, banc de sable blanc là, qui à marée haute est recouvert, donc n'existe pas. Donc il n'y a pas de connexion à marée haute entre les îles, mais à marée basse, ça découvre et puis on peut traverser jusqu'à l'île de Bananec.
Donc dans quelques heures, ce sera plus possible.
Ouais, dans quelques heures. En plus, c'est des gros coefs là, donc ça va être largement submergé.
Ouais, 111, je crois, aujourd'hui.
Ouais. Là, on va pouvoir aller chercher Atrinab dans pas longtemps. Non, c'est sur ce secteur-là qu'il y avait. Donc Atrina fragilis, c'est une grande moule, la nacre de l'Atlantique, ou le jambonneau de mer, elle a un autre nom rigolo. Et c'est une moule qui est enfouie dans le sable, en fait, et qui dépasse un peu le tiers des passes. Et c'est une espèce qu'on connaît mal et qui est quand même en régression. Enfin, les données, on en a de moins en moins, sont en régression. Donc Bretagne Vivante a lancé une étude à l'échelle régionale sur 2 ans. Donc l'idée, c'est de faire des prélèvements génétiques aussi pour voir comment évoluent les populations qui sont plus... C'est presque découvert, on va peut-être pouvoir aller essayer de chercher.
Ah oui.
De toute façon, la mer descend encore pendant 1 heure.
Donc vous souhaitez donc récupérer là.
Donc l'idée, ouais, c'est d'essayer de retrouver cette Atrina. Et du coup, de faire un prélèvement de l'Atrina pour en fait récupérer des petites cellules pour qu'après on puisse faire une analyse génétique.
Branle-bas de combat, monsieur. Dans 10 minutes, le gars de la capitainerie ouvre les vannes du port, là. Hein ? Il faut faire vite, monsieur.
Mais vous inquiétez pas, on va arranger ça. On va vous dépoter le miron.
Hein ?
Allez, les gars, aux étouilles maintenant.
Hein ? C'est quoi les étouilles ?
Mais j'en sais rien, moi, mon pauvre ami.
Oui, bonjour. Marion Diard de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-des-Glénans. Je vous appelle pour clôturer notre mission sur l'archipel. RAS. Oui, tout s'est très bien passé. Oui, on vient juste d'arriver au port. Très bien, merci beaucoup. Au revoir.
Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc maintenant, Savarion ?
Une très belle saison.
Margot ?
Pareil.
Pareil.
Ensoleillé.
Virée absolument délicieuse dans ce Finistère Sud. J'espère que vous l'avez donc apprécié, évidemment, des conditions de rêve. Je veux dire, il n'y avait personne. Voilà. Ben si, il y avait les goélands, il y avait, bon, ça, il y avait du monde. Et encore d'autres espèces dont je ne vous ai pas parlé. Grand merci donc à Marion Diard et Margot, donc Le Gouen, mes deux guides qui sont salariés de Bretagne Vivante. Merci beaucoup à Fabrice Desmaz, à Maxime Goudard qui a mixé ce reportage, à Camille Blanès, notre collaboratrice, à Juliette Gou qui a réalisé l'émission. Thierry Dupin donc, qui a choisi les disques. Et puis tenez, vient de sortir chez Glénat les plus belles îles bretonnes. Dedans, vous avez donc les Glénans. Donc, tout à fait intéressant. Vous avez une quarantaine d'îles, les plus belles îles bretonnes chez Glénat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Mais quand même, auparavant, bah, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Eh bien, la semaine prochaine, je vais vous emmener dans... Ah, c'était de l'ancienne mer, mais peu importe. On va être dans le Luberon. On va être du côté de Bioux avec Stéphanie Baudet, escaladeuse naturaliste. Voilà, je vous souhaite le meilleur.